J'ai aussi beaucoup travaillé, vous le savez, avec Ariane Biron, qui est une grande spécialiste de la psychopathologie. Et il y a plusieurs phénomènes qui se combinent pour expliquer la maltraitance et ceux qui l'ont agi. Et en fait, les deux qui me parlent le plus sont les suivants. D'abord, c'est qu'on sait, et je sais, ça fait peur, mais qu'au fond, aucun d'entre nous placé dans certaines conditions ne peut avoir la garantie qu'il n'en viendrait pas à commettre des actes d'une agressivité extrême envers autrui. Et il y a notamment des recherches qui ont été faites autour de ce qui s'est passé à Abu Ghraib en Irak. Vous savez, ces images terribles de soldats américains qui torturent des Irakiens, qui infligent des sévices sexuels, etc. Et ce qu'on sait, c'est que dans des contextes à très haute densité émotionnelle, c'est quand même des soldats qui risquent leur vie. Hein, c'est pas comme « je vais à la Migros drôle ». Donc quand il y a un stress de survie intense, qui a un effet groupal et qui a un déferlement de l'agressivité envers certains groupes, les vannes sont relativement ouvertes. Alors il y a des individus qui résistent beaucoup mieux que d'autres, mais malgré tout, le potentiel d'être amené ou poussé ou d'arriver à commettre des actes inhumains existe en chacun. Et donc il peut y avoir des effets contextuels du mal. Après, ce qui se passe dans un déferlement comme celui qu'on vit, et souvent d'ailleurs, on nous dit l'objection, hein, imaginer la méchanceté n'est pas nécessaire, il suffit de se dire qu'il y a eu des maladresses et des erreurs. Oui, mais tout ramener à la maladresse, c'est un peu facile. Mais tout ramener à la méchanceté ou à la perversité serait aussi erroné, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément des pervers ou des psychopathes et qui en sont venus à se comporter de manière extrêmement discutable. Et au fond, ce qu'explique Ariane, et je trouve que c'est très pertinent, c'est déjà qu'il y a un noyau de personnes aux commandes qui sont des paranoïaques hyper dangereux. Un autre psychiatre américain les appelle les prédateurs globaux. C'est-à-dire que c'est des gens qui vraiment n'ont aucun état d'âme, aucune humanité, uniquement le pouvoir les intéresse, les coûts humains, ils s'en contrefichent. Et malheureusement, c'est des profils qui existent. Et souvent, ce qui est difficile pour le commun des mortels et les gens qui ont une bonté fondamentale en eux, c'est de comprendre que ces profils existent. Les victimes des pervers narcissiques, c'est ça. Hein, pourquoi est-ce que les personnes ne se rendent pas compte qu'elles ont affaire à un pervers? Parce qu'elles ne peuvent pas imaginer qu'il y ait des gens sur cette terre dont la seule jouissance est d'infliger de la destruction aux autres sans se faire démasquer. Et donc, ça peut aller très loin. Et donc, ce qui explique Ariane, c'est qu'il y a ce noyau de paranoïaques dangereuxissimes qui aujourd'hui sont à la tête de la plupart des États et des entreprises qui ont réellement du pouvoir. Mais ce qui est normal aussi, ben, ce sont des assoiffés de pouvoir, ce sont des obsédés du pouvoir. Et puis, en fait, on peut le lire dans l'autre sens. C'est qu'aujourd'hui, en France, si vous n'êtes pas dans ce profil-là, vous n'allez pas vous présenter à l'élection de la République, de la présidence de la République. Vous voyez, c'est un tel parcours du combattant. Vous vous faites tellement attaquer, vous devez tellement trahir et mettre hors d'état de nuire les autres, que si vous n'êtes pas machiavélique, pervers et paranoïaque, voyez, vous faites autre chose. Vous avez les vies qu'on a les uns et les autres. Et donc que seuls les profils de cette nature, dans la réalité des faits, accèdent aujourd'hui aux positions de commande. Et ça, je l'ai souvent cité, Albert Jacquard l'avait dit très tôt. Dans les années 90, il avait dit « On crée un monde tellement compétitif qu'il n'y aura que les gens sans foi ni loi ou hyper conformes qui se retrouveront au pouvoir. » Et pour moi, qui ai appris à mes dépens à découvrir ce que sont les pervers narcissiques, ça a été un cauchemar depuis le début. Parce que où qu'on se tournait, on voyait des gens de cette nature. Donc on avait l'adorable Didier Pittet. Le type qui a un bouvier bernois, qui a inventé le gel, qui a sauvé des vies dans le monde entier, qui venait avec son sourire dire « vous avez rien compris, mais il faut tasser la courbe, la Suède, c'est rien du tout », qui a fait un rapport pour Macron pour dire à quel point il avait bien géré l'épidémie, et qui reçoit une Légion d'honneur. Non mais vous imaginez, le type, tout le monde, « ah oh, mais ce Didier Pittet, quel bon gars, vraiment, c'est le Suisse en qui on peut faire confiance. » Wow! Vous l'avez vu à Infrarouge face à Michael Esfeld? Le mépris qui sointait de cette personne, il n'écoutait rien, il était là ricanant. Ouais, non, mais nous les médecins, on sait ce qu'on fait. Vous, vous êtes un philosophe des sciences. Non, mais vraiment un truc, mais abject, je suis désolé de le dire, comme je le pense, mais abject. Et donc, ce qui a été terrible dans cette histoire, c'est que tous ceux qu'on voyait avoir des responsabilités, Poggia, Berset, Véran, Macron, Delfrécy, Gilbert Deray, Karine Lacombe, c'était tous des gens qui étaient dans ce profil hyper dangereux, qui se caractérise par quoi ? Ce que définissait Récamier, qui a découvert le profil de pervers narcissique, c'est des gens pour qui un mensonge réussi vaut une vérité. S'ils mentent et que ça arrive, ça leur permet d'arriver à leur fin, aucun souci. Ça valait la peine. Alors que pour vous et moi, et ça nous arrive de mentir, ne nous racontons pas d'histoire, mais ça nous coûte. On n'aime pas. Notre conscience nous gratouille. On a de la culpabilité. Mais vous croyez que Didier Pitet, qui a dit 12 000 fois sur les plateaux « on n'a jamais rien connu de pareil depuis la grippe espagnole », la létalité du Covid est plus faible que celle de la grippe. « On n'a jamais rien connu depuis la grippe espagnole », il a terrorisé la population avec ça. Vous croyez qu'il viendra à un moment donné dire « ah, je suis désolé, je me suis trompé » ? Non. D'accord ? Donc, on a eu comme ça des profils très toxiques. Berset en est un exemple parfait. C'est un type d'une fourberie, d'une méchanceté, d'une hypocrisie, enfin, ce qui me reste de cheveux se dresse sur ma tête en en parlant. Oresco reference, aurait dit Virgile. Mais donc, on a eu comme ça des personnes objectivement très nocives. Et puis après, c'est ce qu'explique Ariane Biron, un carambolage. C'est-à-dire que dans les structures psychiques, du plus perverti au plus normal, on ne change pas tellement de structure psychique en cours de route. Donc si vous êtes névrosé, ça veut dire normal, assez perturbé comme chacun. Vous n'êtes pas un obsessionnel. Si vous êtes un obsessionnel, vous n'êtes pas un pervers. Et si vous n'êtes pas un pervers, vous n'êtes pas un paranoïaque. Et ce qu'a montré Ariane, c'est que dans un déferlement totalitaire, toutes les catégories se décalent d'un cran. À quelques exceptions près. Et c'est pour ça qu'on a vu des gens névrosés comme vous et moi devenir obsessionnels. Le masque. Hein ? Moi, j'avais une dispense de mon médecin, et ça m'est déjà arrivé à la COP ou à la micro, mais de voir des gens faire des bonds en arrière. Mais comme ça, d'accord ? Ça, c'est des réactions d'obsessionnel. Quelqu'un qui a des TOC, ou vous voyez, vraiment une névrose anxieuse très très forte, peut connaître ça. Puis du coup, les obsessionnels se sont mis à se comporter comme des pervers, et les pervers comme des paranoïaques. Et donc, on a vu ce motif qui, moi, m'a horrifié, c'est de voir des gens, et notamment j'en connaissais beaucoup, avec qui j'avais travaillé dans les politiques de santé, qui étaient solides dans leur éthique. Des gens qui, à l'époque du sida, avaient tenu bon. Non, on ne discrimine pas les gens, on ne les stigmatise pas, on ne les marque pas, on ne fait pas pression sur eux. Tout d'un coup, se comporter comme les derniers des salauds. Et en ce qui me concerne, c'était d'autant plus notoire que des gens avec qui j'avais collaboré sur des chantiers en santé publique, avec qui je croyais avoir une bonne relation, se sont mis à rediffuser des contenus diffamatoires à mon sujet. Disant que j'avais truqué mon CV, que j'induisais les gens en erreur, que je savais pas de quoi je parlais, que j'étais délirant. Putain, des gens avec qui j'avais bossé. On se connaissait. Voyez ? Et là, on voit bien cette folie collective où finalement, dès lors qu'ils ont de bonnes raisons, les gens peuvent devenir extraordinairement agressifs et fermés. Et puis, pour terminer la réponse, aussi cette réalité que pour tous les gens, alors plus tordus et méchants, mais qui en temps normal doivent quand même se surveiller, tout d'un coup le bar est ouvert. Donc on a vu des types mais devenir d'une méchanceté, notamment un pharmacien jurassien que certaines personnes remettront, mais qui s'est mis à faire de la délation, il a envoyé des mails à l'ordre des médecins, tel médecin a émis un doute sur la vaccination, vous devez le poursuivre, il a traité Raoul de sac de merde. Un pharmacien de Porrentruy. Et qui tout d'un coup donne des leçons de science au monde entier. Raoul, tu n'as rien compris à la microbiologie.
C'est droit dégoûtant.
Non mais vous voyez, c'est spectaculaire. Et donc ça, il faut mesurer effectivement que c'est un état de folie avec ceux qui dérapent complètement, et puis après, ceux qui s'enferment. Le rédacteur en chef de 24 heures, par exemple, ne peut rien entendre. Il est, mais, obtus. Et si on lui apporte des éléments, et un certain nombre de gens s'y sont essayés, il dit « Ouais, vous avez vos sources, moi j'ai les miennes. » Entre une étude truquée et une étude qui n'est pas truquée, c'est pas les mêmes sources. Mais il ne peut pas bouger, parce que cet hyperconformisme s'est imposé. Et donc ça, je pense que c'est un élément du cauchemar qu'on a tous vécu, c'est que des gens qui avaient l'air d'être à peu près normaux, à peu près bienveillants, à peu près ouverts d'esprit, se sont transformés, pour certains d'entre eux, dans quelque chose vraiment de très déshumanisé. Mais en même temps, ça serait un peu naïf de croire que ça n'existe pas. Et je me suis d'ailleurs permis des commentaires récemment sur la résistance, parce qu'il y arrive qu'il y ait un peu du rififi dans la résistance, et puis c'est comme si les gens tombent un peu des nues en disant... Oui, mais c'est des querelles d'égo, ça ne devrait pas exister. Mais c'est pas du tout ça. C'est qu'on n'est pas meilleur que ceux en face, hein, humainement. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis, que les groupes dominés ont toujours tendance, mimétiquement, à copier les travers du groupe dominant. Et donc moi, j'aime bien répéter ça, et c'est pas de la fausse modestie, mais... À part Raoul Perron et Alexandrin Orionco et quelques autres, aucune des figures de la résistance qui avons pris une certaine visibilité n'étions des sommités dans notre domaine. Moi, je ne suis pas une sommité en anthropologie. Je suis un honnête anthropologue de terrain qui, je crois, a fait des choses intéressantes pendant sa vie. Mais je ne suis pas une sommité, il ne faut pas dire des conneries. Je ne suis pas Lévi-Strauss ou Maffezoli ou Gilbert Durand. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est qu'à la faveur du fait d'être entré dans la lumière... Certaines personnes sont un peu en train de glisser. Les experts sont disqualifiés. C'est moi, maintenant, l'expert. Vous voyez ? Et ça, c'est souvent, quand on a été méprisé et pas pris au sérieux, ben, la tentation est souvent trop forte, mais ça conduit au complexe de la grenouille qui veut se faire plus grosse que le bœuf. Et donc, malheureusement, on sent ce vertige, mais qui, évidemment, au fond, naît de... l'assise émotionnelle et de la construction de la personnalité de chacun. Et c'est là où moi je trouve qu'il faut rester extrêmement humble. Hein, il y a ce qu'on sait et ce qu'on peut dire, mais il y a tout ce qu'on ignore. Ne jouons pas... Et puis vous voyez, il y avait le conseil scientifique corrompu. Donc évidemment, c'est tous des crapules. Mais après, alors, il y a un conseil scientifique indépendant. Alors c'est nous les sommités. C'est nous le conseil scientifique. Non, 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 non. On peut être des gens honnêtes, avec des compétences, qui essayons de faire un travail utile, mais vous voyez ce que je veux dire, il y a tous ces enjeux qui circulent, et donc c'est compliqué de part et d'autre, j'ai envie de dire.